me cure le nez en scred. Dites-le à personne. Je me cure le nez en scred. Dites-le à personne. Je pète au lit forcément. MC pauvre coude, merci. Du souci. Bah ouais, je m'en fais pour ma vie. Fronce les sourcils. Et puis, je flippe. La vie n'est pas gentille. Parfois, je fuis les emmerdes, me réfugie. Avec ma chérie. Et tu sais, sous mon toit c'est tranquille. Bref, je m'égosille au micro, test. Des bouquins je lis prestement presque. C'est devant un film que je finis. Je laisse traîner mes chaussettes. Je bois des citernes de coffee. Stress à la Speedy Gonzales. Je m'ennuie, joue à la Wii. Je mets des smileys dans mes SMS. Je me prends des cuites à midi au lit. J'hésite à fumer la cigarette électronique. Je roule plus de stick, je rêvasse. Procrastine, m'assoupis, vaisselle à la main, liquide en dit, qu'est-ce t'en dis? B-boy, papa, employé, MC, je préfère la flemme à l'effort, c'est comme ça que je survis. T'as vu, tu comprends tout ce que je dis, y'a pas du voix cartel, pas de bandit. Écoute du bon son, faire l'amour, c'est simple comme bonjour, peinard, journée standard, choper mes potes. Fumer une clope, Song for Curtis, c'est qui sont? C'est le Narbé, faut pas tester. Quand j'entends ça, j'arrive plus à m'arrêter. Insomniaque, j'aime la nuit, c'est elle que j'écris. Pas de sonnerie, pas de ding-dong, rien. On laisse faire le silence. J'écoute du rap français dans la forêt. Revenu du lointain pays, du dis bonjour à la dame. Rapporte la baballe, respecte le corps professoral. Ma maman m'a dit on va t'exploiter. La tête choyée, regarde le ciel, les ailes déployées. Ma jeunesse, un film d'horreur de très mauvais goût. Qui fait pas peur du tout. Au dernier rang devant l'éternel, cancre de l'absolu. Au bout du bout du bout du bout du rouleau. Je vois mes années de galère comme des années de boulot. Je veux pas qu'on me compare. J'aime pas les concours d'entrée. Je n'aime pas les Oscars, je n'aime pas les nominés, je veux tuer personne. Si je dois dealer une drogue, ça serait de la bebonne, bonne bebio, équitable et réglo. Qui répare le cerveau, j'ai le micro, vous êtes de trop, je suis presque con, je suis presque beau. Avec mon pote pauvre coude, on parle pas de foot, mais de femme et de rap et de rap.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés. We'll be right back.
Salut, bonsoir à tous. Bienvenue dans la plus Lyon, pardon, par la plus rebelle des radios, j'arrive. On est le 8 avril, on est le 8 avril 2019. Bienvenue dans votre émission Canu Info du lundi. Vous avez ici à présent les canulars pour vous informer sur l'actualité nationale, internationale, mais aussi locale. On verra tout ça avec...
Avec les titres.
Donc c'est moi qui l'ai fait, très bien. Eh bien. Alors à l'international... on commencera par une manifestation de migrants en Grèce. On ira ensuite du côté du Venezuela avec la présence des troupes russes. Et on terminera l'international par un petit point sur ce qui se passe en Algérie avec le départ de Bouteflika. Au national, on fera un retour sur ce fabuleux grand débat national que tout le monde attendait avec impatience. Et ensuite, on ira gilets jaunes du côté donc, des gilets jaunes. Et au local, on enchaînera donc avec des tags racistes avenue Berthelot. Des contrôleurs en civil qui attendent les gens, qui récupèrent un ticket donné, laissé pour, par solidarité. On enchaînera avec la grève de Pizzorno et on finira donc avec un entretien enregistré avec un sans-papier qui a été arrêté en prenant un Flixbus ce matin. Et après, on aura bien sûr le traditionnel agenda et donc nous enchaînons immédiatement à l'international avec une manif de migrants en Grèce.
Oui, parce que si tout est fait en Europe pour que les personnes migrantes soient enfermées dans des spirales et des procédures sur lesquelles ils n'ont aucune prise, les intimant à la passivité et à s'en remettre à la clémence des autorités, il semblerait que certains d'entre eux refusent d'accepter ces conditions. En Grèce, plusieurs centaines de migrants ont effectué des rassemblements. Ils étaient 200 à bloquer la principale gare d'Athènes vendredi dernier en réclamant l'ouverture de la frontière, plus de rapidité dans le traitement de leurs dossiers de demande d'asile et de meilleures conditions de vie. Certains avaient même installé des tentes sur les rails. La veille, ce sont plus de 500 personnes qui se sont rassemblées à Diavata et qui ont monté un campement dans un champ de maïs. Ils réclament des bus pour le nord de la Grèce et l'ouverture du poste frontalier d'Idomedi. Des affrontements ont eu lieu vendredi avec la police lorsqu'un groupe de migrants ont tenté de forcer les cordons de policiers. Il y aurait aujourd'hui plus de 70 000 migrants en Grèce, dont 15 000 entassés dans des camps sur les îles de la mer Égée. Et retenir ces personnes au sein de la frontière de la Grèce ou d'un camp, ou au sein d'un camp, il est évident que cette situation n'est pas tenable, alors de l'air, ouvrez les frontières.
On enchaîne ensuite donc avec la présence des troupes russes au Venezuela.
Oui, on ne va pas tarder, on va réellement parler de la présence, si vous voulez, de troupes russes au Venezuela. Il faut dire des troupes russes sur le sol vénézuélien, d'après le Croix. C'est plusieurs centaines de soldats russes qui sont déployés au Venezuela. La présence des fonctionnaires militaires russes à Caracas cesserait dans le cadre de la coopération militaire et technique, nous apprend l'agence russe. Alors là, je ne sais pas comment je vais prononcer. Sputnik. Ok, entre les deux pays russes et Venezuela. Même si l'administration de Trump, de Poutine soutient que cet envoi militaire et des armes chez Nicolas Maduro s'inscrit dans le cadre de renforcer sa coopération avec le Venezuela en accord avec la constitution du pays, c'est-à-dire du Venezuela, dans le cadre de la loi, les opposants au président actuel crient, eux, à l'ingérence et à la violation de la constitution. D'ailleurs, certains parmi eux disent que Maduro ne fait plus confiance à ses militaires s'il fait appel à des militaires étrangers. Ce qui ne semble pas loin d'être proche de la réalité, parce que au-delà des envois militaires qui ont quand même des missions techniques telles que former des militaires vénézuéliens sur l'usage des armes affectées par leur nation, par Vladimir Poutine, aujourd'hui Moscou est pointé du doigt pour avoir aussi envoyé des agents de sécurité privés pour protéger Nicolas Maduro. Ces agents de sécurité sont connus sous le nom de Wagner. Donc, ce qu'il faut dire de ce groupe de sécurité présent aux côtés de président contesté par une partie de la population vénézuélienne est une société mercenaire russe créée par tout simplement Dmitri Utkin, un ancien officier du ZRU, renseignement militaire russe, un groupe paramilitaire privé qui est déjà présent aussi dans presque tous les pays où les Russes où la Russie soutient un président, c'est-à-dire controversé. Donc, on peut se rappeler le cas de la Syrie ou en Centrafrique aussi, on a vu. Ces groupes militaires, il faut dire, ces groupes de sécurité privée épaulent les hommes qui protègent aussi Bachar al-Assad en Syrie. La société Wagner est d'ailleurs cité par le département du Trésor américain pour son implication dans le conflit en Ukraine. Il est aussi présent, si vous voulez, en Centrafrique. D'ailleurs, si on se rappelle, le 23 janvier 2019, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait dénoncé la présence des mercenaires russes en Centrafrique, en citant, si vous voulez, normalement, le groupe militaire ordinaire.
Ça, c'est quand même rigolo que la France parle d'ingérence.
Ouais. On verra de toute façon, ouais. Parce que si ça nous arrange, on essaye de dire, mais sinon, on dit rien. Une société des mercenaires russes créée par Dmitri Outkin et Nancy, comme je disais, officier du renseignement militaire russe. Donc, il faut dire, il serait financé par un oligarque russe. Alors, toujours le nom, et les noms des Russes, je n'arrive pas très bien à le prononcer, mais je vais essayer. C'est Evgeny Prigonil. Il serait proche d'abord, il faut dire, il serait proche de Vladimir Poutine et il aurait fait fortune dans la restauration avant d'obtenir de nouveaux contrats avec l'armée russe. Il serait même accusé par la justice américaine d'être l'instigateur de publications massives tendancieuses sur l'Internet pendant les élections présidentielles en 2016, favorisant le candidat Trump qui est actuellement président dans ce pays. Pour Poutine, notez bien, les sociétés militaires ont le droit de travailler et de défendre leurs intérêts commerciaux aux quatre coins du monde. Les opposants, si vous voulez, l'opposant fragilisé par sa, disons, aujourd'hui, ce qui ressort de la situation actuelle, au-delà de cet envoi militaire dans cette partie du territoire, il faut dire que l'opposant aujourd'hui, qui est Ron Reido, est fragilisé, si vous voulez, parce que par sa révocation de son poste de président du Parlement. Une décision, si vous voulez, on se rappelle bien, c'est une décision prise par le contrôleur général de la République, Elvio Amoroso, nommé par l'Assemblée constituante créée par Nicolas Maduro en charge de veiller à la transparence de l'administration de ce pays.
Ok, bon, bah, donc on voit qu'au Venezuela, il y a toujours donc des ingérences étrangères et que l'impérialisme fonctionne bien entre les Occidentaux qui soutiennent Juan Guaido et puis effectivement les Russes qui envoient des troupes. C'est pas au peuple vénézuélien de décider, visiblement.
Exactement. Et surtout, si on se rappelle très bien, on se rappelle ces derniers jours quand même, il y a eu plusieurs coupures des géantes électriques dans ce pays. Alors que ce pays, quand même, a des potentiels au niveau de carburant et tout ce qui concerne ce... D'ailleurs, c'est pourquoi la présence de tous ces pays, des grandes puissances vers ce pays.
C'est ça, c'est le pétrole, encore une fois.
Et donc, au Venezuela, le peuple ne décide pas pour lui-même. Et qu'en est-il en Algérie ?
Eh bien, en Algérie aussi, où le pétrole fonctionne toujours bien, et il a longtemps bien fonctionné, eh bien... le départ de Bouteflika n'a pas trompé le peuple. Alors, je m'explique, Bouteflika a effectivement bien démissionné sous la pression de la rue. Et c'est actuellement le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, qui assure l'intérim pour une durée maximum de 90 jours. Avec en toile de fond la préparation de nouvelles élections par le nouveau gouvernement en place, le gouvernement qui a été modifié et transformé à la mi-mars en pleine contestation, histoire d'essayer de calmer le jeu, mais ça n'a pas suffi. Pendant ce temps-là, l'armée, avec à sa tête le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, eh bien, se place. Gaïd Salah, il est désormais numéro 2 de ce nouveau gouvernement. L'objectif est très clair, calmer la contestation et sauver le régime en place. Mais il y a un conflit larvé entre le camp Bouteflika et l'armée. Armée qui a toujours exercé une forte influence, voire un contrôle total sur l'État depuis l'indépendance de 1962, mais qui en a perdu depuis l'accession de Bouteflika, le premier président de la République, issu donc de la société civile, même s'il faisait partie du FLN. L'armée est largement soutenue par la fraction patronale d'Issad Rebrab. Alors, Issad Rebrab, c'est la première fortune du Maghreb. Et c'est le patron, entre autres, de Cévital, donc c'est de l'agroalimentaire, grande distribution, industrie, services, etc. Mais la faiblesse structurelle de la bourgeoisie nationale n'est pour le moment pas capable de reconstruire un bloc hégémonique dominant sans l'appui d'un homme présidentiel que, là, le clan Bouteflika aimerait bien fournir et que ce ne soit pas issu de l'armée. Alors... ils tentent ainsi de calmer la colère sociale hein, en redistribuant, ils vont probablement, c'est dans les petits papiers, redistribuer quelques miettes des profits on en parlait, absolument colossaux de la rente pétrolière. Profits qui sont monopolisés par une petite minorité au pouvoir qui vit dans l'opulence et dans le luxe, alors que la population, elle, elle vit dans la misère, qu'elle subit une très féroce répression, qu'elle a très peu de liberté fondamentale. Le peuple algérien a donc bien compris quelles étaient les tractations en cours entre le camp Bouteflika et l'armée que la démission de Bouteflika n'était qu'un subterfuge. Alors on a eu des manifestations monstres vendredi en Algérie, c'est le 7e vendredi consécutif, des dizaines de milliers de personnes à Alger, mais aussi dans de très nombreuses villes du pays. C'est une mobilisation qui est visiblement plus importante que les précédentes, et ce, après la démission de Bouteflika. Et pourquoi ? Puisque ce qu'il demande, c'est le départ du régime en place, du clan Bouteflika, comme de l'armée et de son influence beaucoup trop importante sur les politiques de l'État algérien. Il y a également eu des mobilisations en France, puisqu'il y en a eu une très grosse à Paris hier, avec des milliers d'Algériens ou des Français d'origine algérienne qui ont manifesté. Et également une manif à Marseille avec quelques centaines de personnes. Voilà, donc on est bien content que cette mobilisation ne lâche pas l'affaire, et on espère que effectivement le régime soit renversé.
Et on va passer, avant de quitter l'international, on va faire un tout petit point sur la Guinée.
Oui, et parlons de limitation des mandats, on sait que le président actuel de ce pays, dont le deuxième quinquennat, ça s'est fait en 2020 normalement, a souvent contesté aussi la pertinence de la limitation de nombre de mandats sur le continent, donc il faut le souligner. Et ce n'est pas hasard si il conteste, disons, la limitation des mandats, parce qu'il a dans son projet de modifier la constitution guinéenne. Mais aujourd'hui, quand même, il faut dire, les principaux partis de l'opposition guinéenne et des associations de la société civile, des syndicats, ont annoncé une création d'une coalition pour empêcher le président de briguer un second et, disons, un troisième mandat. Donc, il faut le souligner de passage, sauf que dans les semaines à venir, quand même, on n'aura pas mal de choses à dire sur la Guinée, car il se sent prêt pour notamment modifier la constitution.
Donc peut-être plus de détails la semaine prochaine.
Ouais.
On passe maintenant au national.
Avec et
on
ce va parler super du grand débat national.
Ce grand débat national, et dont nous avons obtenu le rendu officiel aujourd'hui.
Ouais.
Vous m'entendez bien ?
Ouais, on t'entend bien.
Ouais. Même les auditeurs t'entendent très bien.
Pas de censure, je vous en supplie, c'est quand même assez comique quand même. Donc voilà, donc on a eu les résultats aujourd'hui, donc on a les instituts de sondage habituels du gouvernement ont fait leur travail et ont dépouillé les centaines de milliers de contributions, enfin les millions si on écoute le gouvernement, de contributions qui ont été plus ou moins spontanément envoyées par des honnêtes citoyens pour répondre en fait à ce grand débat qui était entièrement téléguidé donc par l'État. Donc dans les faits, pour revenir sur quelques grandes lignes, c'est que il y a, malgré la possibilité de faire des contributions spontanées, ce qui a été retenu en fait dans les conclusions, c'est les réponses en fait au questionnaire qui avait été construit par et pour l'État. Et la construction, enfin n'importe quel étudiant en sciences politiques, en sociologie, apprend très rapidement en fait que c'est extrêmement simple en fait de décider des réponses en sélectionnant et en fabriquant soi-même les questions. Et c'est un magnifique exemple qui nous est donné à travers ce grand débat et ses résultats, parce que en fait on constate en fait un blanc-seing total à la politique gouvernementale et un renforcement en fait de toutes les grandes lignes totalement délirantes sur lesquelles nous avons pu aller jusqu'à maintenant. Donc pour vous donner quelques informations, on a pris le temps d'analyser tous les chiffres et voilà. Donc qu'est-ce qui en ressort ? Déjà on n'a pas plus de 300 ou 400 000 personnes qui par thématique ont répondu sur une population de plus de 65 millions. On a en fait, dans les faits, la grande majorité des Français ne se sont absolument pas saisis de ce débat et n'ont absolument pas fait remonter des contributions. Qui sont ces Français qui ont répondu ? Ce sont quand même pour une grande majorité des gens qui habitent dans les très grandes villes, dans les métropoles, en Ile-de-France. La grande majorité des personnes habitant dans les milieux ruraux ne se sont pas prononcées ou en tout cas n'ont pas souhaité utiliser ce médium pour se prononcer sur leur problématique. Il y a vraiment, enfin, c'est quand même intéressant, vous pouvez aller voir, en fait, plus les personnes sont proches des services publics, plus ils ont répondu, et plus les personnes qui sont éloignées et qui au contraire râlent de plus en plus parce que les services publics disparaissent autour d'eux, ces personnes-là ne se sont pas exprimées par ce biais-là. Un petit portrait, je ne vais pas oser dire sociologique, mais quand même, des réponses moyennes, c'est quelqu'un qui se prononce pour comme à peu près plus ou moins en fait ce qui prônait pas par la En Marche.
La République en Marche.
La République en Marche. Voilà, pardon, non,
c'est pas grave.
Et donc voilà, donc c'est un magnifique électeur qui demande quoi ? Bah, qui demande en fait à payer moins d'impôts, qui demande en fait à ce que tout le monde paie les impôts, notamment l'impôt sur le revenu. Donc c'est les vieilles marottes en fait des libéraux de dire que même les plus pauvres doivent payer symboliquement l'impôt sur le revenu, alors que pour ceux, même malgré ceux qui vivent du RSA et des aides publiques, pour pouvoir se sentir concernés en se faisant racketter.
Alors on rappelle quand même que tous les pauvres payent des impôts, puisqu'il y a la TVA, ce qui est l'impôt le plus inégalitaire au monde, mais qu'effectivement tout le monde paye des impôts, déjà même les pauvres. Donc
voilà, donc déjà il y a ça, et ils veulent en même temps réduire les dépenses de l'État, donc en tapant notamment dans les dépenses publiques, donc évidemment qui va dans le sens en fait de l'économie libérale, et ce qui est la première chose sur laquelle a répondu notre Premier ministre, qui se va s'empresser de baisser la grande majorité des impôts. Pour financer toutes les dépenses publiques, on n'a pas trouvé mieux, comme je disais, donc de mieux travailler. 52% quand même des personnes qui ont répondu souhaitent en fait qu'une meilleure attribution des aides sociales soit mise en place. Une augmentation du temps de travail et une augmentation de l'âge de départ à la retraite.
C'est dingue quand même.
C'est quand même dingue. Ouais. On a vraiment l'impression de dire le programme d'En
Marche. Le programme d'En Marche.
C'est beau. C'est beau. Quand on voit toutes les manifestations qui ont lieu où toutes les personnes se révoltent pour lutter contre tout ça. Ce qu'on peut voir, donc en fait, mais c'est pas très étonnant d'avoir ce genre de réponse parce que en fait, l'ensemble des questions étaient orientées dans cette direction-là, que la grande majorité des questions demandaient comment en fait baisser les impôts. À aucun moment, il y avait des questions, ou très très peu en tout cas, majoritairement été posé sur comment améliorer la redistribution ou comment se rendre compte en fait des réalités des disparités de financement et ou comment faire payer les riches en fait là où est l'argent. À aucun moment en fait nous avons dans ces conclusions le fait qu'ils savent on peut augmenter les impôts à certaines personnes et pas à tout le monde parce que en fait ce n'est simplement pas proposé.
En gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est les soutiens et l'électorat de Macron qui sont allés au grand débat national.
Ah mais on parle de 300 000 personnes, voilà. Ça doit être les gens en fait, qui font partie d'En Marche, quoi, qui représentent les 300 000 adhérents d'En Marche au niveau national et qui en fait représentent absolument pas la grande majorité des Français.
Et donc on pourrait dire tout simplement que le résultat est biaisé dans le sens où le débat est orienté et le résultat aussi de...
Ah mais tout en fait, c'est vraiment très intéressant de voir, c'est une caricature de consultation nationale qui a simplement pour but extrêmement clair d'encourager le gouvernement à continuer la casse sociale et se donner une légitimité et pour augmenter les impôts pour les plus pauvres, augmenter le temps du travail, détruire la retraite et tous les acquis sociaux. Et c'est une pseudo-légitimité donnée par une consultation totalement bidon à laquelle ont répondu quand même un certain nombre de Français, notamment ce week-end à Saint-Nazaire, où avait lieu en fait le Rassemblement national des Gilets jaunes, et qui étonnamment a donné un certain nombre d'orientations et de réponses extrêmement différentes de ce qu'on a pu voir ici.
Alors justement, on va en parler, puisque la tentative de ce grand débat national, c'était d'enfumer les Gilets jaunes, et ils ne sont pas si bêtes que ça, visiblement, croyable, puisque ce samedi, donc, il y a eu encore l'acte 21, donc des manifestations un peu partout en France. Alors, comme à tous les actes, les médias se sont empressés de dire que le mouvement s'essouffle. Bon, effectivement, alors selon le ministère de l'Intérieur, 22 300 manifestants, selon Nombre Jaune, donc, qui comptabilise depuis le début pour les Gilets jaunes et par les Gilets jaunes le nombre de manifestants, 73 420. C'est effectivement un peu moins que les semaines précédentes, mais ça reste un nombre conséquent, surtout pour un 21e samedi. On peut aussi rappeler qu'il y a certains samedis qui étaient à peu près aussi bas, et puis que 15 jours plus tard, les chiffres ont explosé à nouveau. Hein. C'est normal de se reposer un petit peu, on comprend. On notera donc les grosses manifestations à Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, notamment, et Rouen. Rouen, c'était un appel national, qui était notamment, et mieux vaut tard que jamais, relayé par la CGT, où les manifestants ont une nouvelle fois bravé le périmètre de sécurité et l'interdiction de manifester définie par la préfecture. Alors, justement, au même moment à Saint-Nazaire, tu l'as dit, se tenait la deuxième assemblée des assemblées. C'est un très gros succès, puisqu'il y a eu au moins 300 délégations qui y sont venues, contre 75 à la première assemblée des assemblées à Commercy. Il y avait donc 800 personnes. C'est donc la preuve de l'enracinement du mouvement avec une tentative légitime de structuration démocratique. Alors les revendications, elles sont très claires, elles sont très justes. Une augmentation des salaires, une augmentation des retraites et une augmentation des minima sociaux. Également, un appel à converger avec l'écologie, avec ce slogan « Fin du monde, fin du mois, même logique, même combat ». Également, une promotion de la démocratie directe sans aucun leader autoproclamé. Hein, le mouvement tient sa ligne, pas de leader autoproclamé. Et puis, ce désir d'une transformation globale, je cite, « Conscient que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faut sortir du capitalisme. » Voilà, les choses sont claires. Également, est mis en avant le fait de refuser de participer aux élections européennes. Un appel à l'amnistie des prisonniers et des condamnés. Et un appel également à des actions coordonnées la semaine du 1er mai, donc des actions coordonnées toute la semaine. Et également un appel à une prochaine assemblée en juin, puisque le mouvement compte bien durer jusqu'à au moins juin. Il y a également un appel national, je le précise, le 20 avril à Paris. Et on pourrait considérer ça comme une deuxième sommation plutôt qu'un deuxième ultimatum. Après la troisième sommation, eh bien, le gouvernement, j'espère, sera vraiment mal. En attendant, par contre, Macron et son gouvernement gardent le cap. Hein. Réforme des retraites, privatisation d'APD, c'est les aéroports de Paris, d'Engie, les réformes bancaires avec beaucoup de suppressions de postes dans l'éducation nationale, la destruction du bac national, des changements de programme, la mise en compétition des établissements avec les grands perdants, les enfants des quartiers populaires et des lois répressives comme la loi anti-casseurs. Donc effectivement, il y a de quoi faire, il y a de quoi contester, donc on continue, on lâche rien et nous on continuera à vous tenir au courant des mobilisations gilets jaunes.
On va revenir, du coup on vient à Lyon et on va commencer par du racisme parce que vendredi dernier les commerçants de la rue Berthelot ont pu découvrir tout un tas d'inscriptions nauséabondes sur leur devanture dont énormément de croix gammées et des inscriptions SS. Pour rappel, c'est dans cette avenue que se trouve le Centre National de la Résistance. Et ce sont donc des tags sur 500 mètres qui recouvrent murs et vitrines avec des petites personnalisations pour certains commerçants du style négro tagué sur un restaurant africain ou arabe sur la vitrine d'un barbier. Bon, la LICRA a porté plainte et quelques personnalités se sont déplacées comme Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Gérard Collomb que je ne présente pas et notre préfet Pascal Maillot. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un acte odieux, insupportable même pour reprendre leurs mots. Et c'est difficile de ne pas rire jeune parce que c'est facile de dénoncer les groupes d'extrême droite, ça donne bonne conscience et peut-être que ça permet de redorer son image, mais il serait beaucoup moins nuisible, ces groupes, si le discours ambiant ne les laissait pas croire qu'ils ont raison. Parce que si les croix gammées et les SS semblent être une réaction à la commémoration des 75 ans de la rafle d'Izieux qui a eu lieu le lendemain, pour rappel, la rafle d'Izieux, c'était la rafle qui a eu lieu dans une colonie d'enfants, donc de juifs, qui ont été ensuite déportés. Et du coup, les tags arabes et négros, eux, ils font référence à quoi? Parce que ni Gérard Collomb et encore moins Pascal Maillot ne peuvent se targuer d'être antiracistes. C'est quand même à Gérard Collomb que l'on doit la loi Asile et Immigration, qu'Amnesty International a qualifié de texte dangereux. C'est aussi lui qui est pour la sanction des personnes solidaires avec les migrants. Il fait aussi partie de ces gens qui mettent sur le même pied les antifascistes et les identitaires. C'est aussi à Pascal Maillot que l'on doit des plans grand froid défavorables aux migrants et surtout aux mineurs isolés. Bref, nous ne sommes pas dupes, ces gens-là ne travaillent pas à une société antiraciste.
Alors on enchaîne sur une information sur ces enfoirés de contrôleurs.
Alors ça c'est juste un tout petit signalement, parce qu'il y a eu 3 cas recensés ce week-end sur Twitter à Lyon de contrôleurs en civil qui étaient postés près des portiques, des portiques du métro et qui attendaient que quelqu'un prenne un ticket CD, c'est-à-dire le ticket d'une personne qui n'en avait plus besoin mais qui était encore valable et qui, par solidarité, l'avait posé sur le portique du métro. Et donc, il y a des contrôleurs en civil qui attendaient à côté que la personne le valide, entre dans le métro afin de lui mettre une amende
60
avec flagrant délit.
C'est vraiment un scandale, ça.
Voilà, 60 euros. Donc c'est à la fois un appel à faire attention si vous faites partie de ces gens qui bénéficient de la solidarité de ceux qui ont pu acheter un ticket, mais c'est aussi un appel à ne pas hésiter à publier des témoignages si vous êtes témoin de cette pratique ou si vous faites contrôler de cette façon. Parce que si c'est une nouvelle pratique des contrôleurs, il faut que ça se sache.
Ouais, après, c'est juste pour rajouter des mots quand même. Je pense que c'est une nouvelle pratique. Mais aussi, il y a des dénonciations parce que je me rappelle quand même sur un groupe de l'université et tout, il y a une étudiante quand même qui a été victime. Et aussi, elle a quand même pu partager ses informations avec pas mal d'étudiants qui sont sur cette cette page Facebook. Et surtout, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que tu ne te rends pas compte. Et je pense que c'est assez dommage qu'il utilise aussi cette pratique parce qu'il pousse les gens de prendre aussi le ticket. Parce que si quelqu'un qui n'a pas un ticket vient et qui n'a pas de ticket, ils peuvent attendre. Mais s'il voit un ticket qui n'est pas et qu'il n'a pas le moins, il prend le ticket pour entrer. Alors que c'est un PL tendu par même censé, ceux qui sont censés contrôler le truc.
Mais là, tu parles d'une fille qui a été dénoncée ?
Non, non, qui a été victime et qui a quand même partagé ses informations sur une plateforme.
Parce qu'en plus des personnes qui se font contrôler en prenant les tickets, en fait, ils contrôlent et ils mettent des amendes aux gens qui donnent des tickets.
Oui, enfin,
moi, j'ai
oui, c'est
d'un pote aussi qui s'est fait, oui. qui s'est pris une amende parce qu'il a tendu un ticket à quelqu'un et devant un contrôleur, et le contrôleur lui est tombé dessus. Alors, juste rappeler déjà que tout ce qui se passe en fait en dehors des transports en commun, en dehors des portiques, en fait, ne concerne aucunement les contrôleurs et qu'en fait, vous avez totalement le droit de donner transmettre vos titres de transport, que en fait ce nouveau cri délit de solidarité en fait, parce que c'en est un tout simplement quoi, une fois de plus qui alors qu'on a ces tickets qui sont valables une heure et qui permettent en fait à énormément de personnes de pouvoir se déplacer parce que ils en ont pas d'autres moyens, et ben on a quand même à l'heure actuelle des gens qui sont payés pour faire les plantons devant devant des stations de métro pour pouvoir coller des amendes pour criminaliser la solidarité.
Et puis on rappelle que c'est Keolis qui est derrière TCL, donc c'est une grande entreprise de transport européenne qui fait des marges absolument faramineuses, donc donnez vos tickets et prenez-les quand on vous le donne, et dénoncez les contrôleurs quand ils ont ce genre de pratique. On enchaîne avec quelque chose d'un peu plus joyeux, une grève, c'est toujours joyeux une grève.
Une grève, ouais, parce que vous l'avez peut-être suivi, mais une grève des éboueurs de la métropole de Lyon qui avait commencé le 19 mars, qui a duré 17 jours, s'est terminée vendredi dernier. Ils réclamaient une augmentation de salaire de 200 euros mensuels, le maintien des primes d'intéressement, la non-mise en place de tournées avec un seul agent à l'arrière et la revue des congés en été. Le mouvement était très intéressant parce qu'il s'était formé sans syndicat. C'est ces syndicats qui, bien ayant rejoint le mouvement et s'étant présentés comme représentants auprès de la métropole, ils étaient majoritairement rejetés par les éboueurs qui se sont nommés Gilets Orange en référence au célèbre Gilet Jaune. Ils avaient d'ailleurs insisté pour être reçus eux-mêmes en tant que collectif après que la métropole ait rencontré les syndicats. La grève s'est arrêtée après la deuxième vague de négociations. Les éboueurs de la métropole n'ont malheureusement pas obtenu toutes leurs revendications, mais certainement que ces 17 jours de grève leur ont coûté cher. Et il faut reconnaître un manque de soutien, car finalement, il a fallu du temps pour que dans tous les médias, on commence à parler de leur grève. Ces éboueurs interviennent en effet dans le Grand Lyon, mais pas à Villeurbanne et pas à Lyon, plutôt dans d'autres communes, ce qui a certainement entravé leur visibilité. Pour Lyon et Villeurbanne, Bron et Vaux-en-Velin en fait aussi, la collecte des déchets est sous-traitée à une entreprise privée, l'entreprise Pizzorno. Et ce sont les salariés de cette entreprise qui sont entrés là en grève le 2 avril, malheureusement peut-être un peu tard par rapport à la grève des éboueurs de la métropole, mais ils ont des revendications similaires, c'est-à-dire aligner leur rémunération sur celle des employés de la métropole, ce qui reviendrait à une augmentation mensuelle de 300 euros, une augmentation de leur panier repas et de meilleures conditions de travail et d'hygiène. Ils signalent par exemple ne pas avoir accès à des chaussures de sécurité conformes, entre autres choses. Les grévistes subissent déjà des pressions, l'entreprise ayant fait appel à un huissier pour faire un pointage des grévistes. La police a aussi été contactée pour tentative d'effraction, alors qu'un rassemblement pacifique avait lieu devant les locales de la direction. 4 voitures de la BAC se sont déplacées et sont reparties déçues, n'ayant pas de tentative d'effraction à constater. L'entreprise Pizzorno donc fait appel à ses salariés de Valence et de Nice pour essayer de rattraper le ramassage des poubelles, mais aussi à des intérimaires, ce qui est illégal et va à l'encontre du droit de grève, comme le dénonce le syndicat solidaire qui soutient les grévistes. Ils ont rencontré ce matin le directeur local de Pizzorno qui leur a adressé un mur, qui leur a clairement dit que rien n'était négociable. Et ils font ce soir une AG pour discuter de la suite de leur mouvement. Ils devraient notamment se déplacer mercredi à Draquignan, au siège de l'entreprise. A noter aussi qu'ils tiennent un piquet de grève où vous pouvez les rencontrer et les soutenir. À leur dépôt à Vénissieux qui se trouve 11 avenue Pierre-Sémard, tous les matins de 4h30 à 12h30. Solidaire a aussi lancé une caisse de grève et vous pouvez donc les aider financièrement en envoyant un chèque à Solidaire Rhône, 125 rue Garibaldi, 69006 Lyon, en indiquant bien au dos Solidarité Pizzorno. Une autre façon de les aider, ce serait de contacter directement l'entreprise Pizzorno pour vous plaindre du non-ramassage des poubelles et exiger que l'entreprise accepte leurs revendications afin que nos éboueurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait tourner sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une action en cours. N'hésitez pas à participer. Le téléphone de l'entreprise est le 04 78 78 92 92. Mais on vous remettra toutes ces informations sur le blog des Canu Info.
Oui. Pizzorno, il faut quand même rappeler ce que c'est aussi une grande boîte à la base italienne qui est connue en fait pour faire n'importe quoi avec les déchets en Italie, d'être totalement en lien régulièrement avec la mafia, de faire des déchets sauvages, de polluer un nombre incalculable de sites en Italie, et que simplement il y a quelques lois beaucoup plus restrictives en France qui leur empêchent de faire ça, mais dans ces cas-là, ils se rattrapent sur les droits humains comme le monde ça dirait à l'heure actuelle.
Du coup, on va s'arrêter là pour les éboueurs en leur souhaitant bon courage. Et en leur disant qu'ils font bien de nous rappeler par leur grève qu'une ville c'est quand même super sale, il n'y a qu'à voir ce que moins d'une semaine de grève donne au niveau de l'entassement des poubelles, et que donc les éboueurs font un travail indispensable et méritent de ne pas être pris de haut.
Et donc pour terminer, on enchaîne donc avec un entretien enregistré ce matin par un sans-papier qui a été interpellé.
Il a été interpellé en fait en allant à la gare de Perrache pour accompagner sa compagne en fait qui allait prendre le bus tout simplement, et la PAF lui est tombée
et comme d'hab contrôle aux faciès.
C'était qui prenait le bus.
Voilà.
Et ben écoutez, on vous laisse avec lui pendant les 10 prochaines minutes.
Et je suis là parce que il y a eu une situation ce matin.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce matin ?
Ce matin, j'ai accompagné une amie qui partait sur Marseille. Donc, il fallait que je sois avec cette amie à la gare de Perrache à partir de 7 heures.
C'était où exactement, à la gare de Perrache ?
Là où s'arrêtent les bus Flexibus. Pour déposer les passagers et embarquer les passagers.
Très bien. Tu es arrivé à l'heure, donc, et qu'est-ce qui s'est passé ?
J'arrive à l'heure, et là, je vois une patrouille de police qui contrôle tout le monde, à tout va comme ça, même ceux qui ne voyagent pas, ce qui m'a paru étonnant, parce que moi, je ne voyageais pas, j'ai accompagné une personne qui devait voyager. Et c'est ce que j'ai dit même aux forces de l'ordre.
Ça s'est passé comment, l'interaction avec ces policiers qui contrôlaient ?
Bon, ça s'est passé, il y a eu légèrement de violence, parce qu'en fait, je leur d'abord ai dit que je ne voyage pas. Donc la personne à contrôler, peut-être c'était la personne qui partait avec son bagage, si c'était le cas. Mais sinon, tout de suite après, ils sont venus me prendre avec, et de force pour que je sois parmi les interpellés, quoi.
Est-ce qu'il y a eu d'autres interpellés à ce moment-là ?
J'en ai vu plusieurs, parce que dans le camion où nous sommes allés, on était deux. Mais plus tard, au poste de police, j'en ai vu d'autres. Hein, j'en ai vu d'autres qui sont venus. Est-ce qu'ils les ont pris aussi à la gare de Perrache ? Parce qu'il y avait beaucoup de contrôles à la gare de Perrache. Est-ce qu'ils les ont pris ailleurs ? Mais franchement, je les ai vus. J'ai vu beaucoup dans ma cellule, plein.
Alors, tu dis que tu étais au poste de police. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement quel était ce poste de police ?
C'est tout juste à côté de la Part-Dieu.
C'est le poste de la police aux frontières, la PAF ?
Oui, 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 oui.
Et une fois que tu as été amené à la PAF, ça s'est passé comment pour toi ?
Bon, j'ai été mis dans une cellule, voilà, et ça a commencé par des interrogations, comme toute procédure au niveau de la PAF, on vous demande un médecin, un avocat, ainsi de suite.
Et ensuite, ils t'ont posé des questions plus précises sur ta situation à toi ?
Oui, après, ils m'ont posé des questions plus précises, et puis... je leur ai dit ce que je suis, ce que je fais dans cette ville, ce que cette ville aussi m'apporte, que peut-être que je ne dis pas à haute voix, mais que je garde dans mon cœur. C'est des choses précieuses, je le leur ai dit.
Ok. Aujourd'hui, donc tu as été libéré tout à l'heure, ça a duré, en gros, tu as été enfermé pendant quelques heures, 4 ou 5 heures ?
Oui, oui, oui. Ouais.
Et ils t'ont libéré dans quelles conditions ?
Bon, ils m'ont libéré. Je dois dire que c'est pluridimensionnel, parce que déjà pendant que j'étais dans les locaux de Radio Canu, ça circulait déjà dans les couloirs, que les gens de Radio Canu, les gens de la police dans les couloirs étaient déjà en panique parce qu'ils avaient senti que mes collègues de Radio Canu qui étaient dehors étaient prêts à déclencher un mouvement, une révolte, ainsi de suite. Donc, il y a eu une réaction à l'extérieur et à l'intérieur, ça produit un effet, voilà.
Tu crois que ça a joué un petit peu dans le fait que tu aies pu être libéré rapidement?
Ah ben oui, parce que pendant que je suis au poste de police, on veut me faire une déclaration de mise en examen, tout ça, voilà. Parmi le récit que je dis au poste de police, c'est que je suis un griot de Lyon, je suis quelqu'un qui apporte de la connaissance aux petits Lyonnais. Je fais une émission radio qui fait venir des écoles de Lyon, pas n'importe quelle école, mais c'est des gens qui sont en difficulté. Donc dernièrement, c'était Sainte-Consorce, voilà, qui sont venus dans mon émission, des gens en difficulté. Et les locaux de la radio, la dynamique de la radio, c'était pour leur ouvrir une autre perspective dans la vie, au dehors des clichés dans lesquels ils sont un peu... ils n'arrivent pas à avoir leur place. Donc les locaux de la radio, le métier du journalisme, tout ça, c'était une façon de leur ouvrir les yeux sur d'autres portes de la vie, au lieu de sombrer dans le désespoir. Donc les contes, les écoles, les animations dans les jardins publics, dans les jardins de Lyon, et plein d'autres trucs que je fais sur la culture à Lyon, il fallait que je le leur dise. Donc je leur ai dit que je participe dans cette ville.
Ok, très bien. Eh ben, écoute, on est très content pour toi que tu aies pu être... libéré. Et pour les auditeurs et auditrices qui viennent de t'entendre, est-ce que tu pourrais leur dire quand est-ce qu'ils peuvent t'entendre sur les ondes de la radio?
Alors, mon émission s'appelle Le Mbongi de culture à l'Ubuntu. Je rappelle que le Mbongi, c'est lorsque les gens sont rassemblés dans ma culture, les gens sont rassemblés pour s'élever, pour faire écrouler les barrières psychologiques, mentales et autres. Quand les gens sont rassemblés pour cette élévation-là, ça s'appelle le Mbongi. Et mon Mbongi, c'est pour s'élever dans la culture. C'est à l'Ubuntu parce que ça parle à toute l'humanité, parce que l'Ubuntu, c'est l'humanité. Donc, mon émission se passe une fois par mois dans Radio Canu. Et je signale via les réseaux sociaux le dimanche où mon émission se passe. Mais c'est une émission très riche parce que ça commence par un conte pour les enfants. Et ça progresse dans une émission, une rubrique assez rigolote qui s'appelle « Parle comme tu manges » ou « Parle comme tu manges ». C'est une rubrique où je tourne dans toute la France pour ressusciter toutes les langues mortes des régions de France, accompagnées d'un repas. Donc, si vous êtes bresson, on va cuisiner un chapon et on va parler le bresson. Moi, je vous pose des questions en français. Dernièrement, j'étais en Alsace. On a fait le Battelmann, donc le pain de la récup, que tu peux garder dans la maison sans réfrigérateur et tu le manges, tu es toujours tranquille. Et on a parlé l'alsacien. C'est cette émission-là que vous écouterez une fois par mois sur les ondes. Les dimanches par mois sur Radio Canu 102.2.
À midi. Et alors, dernier truc en lien avec ce qui s'est passé pour toi ce matin, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui sont dans ta situation?
Alors, ce que je donne comme conseil aux gens qui sont dans ma situation, c'est d'abord d'éviter des points sensibles. Bon, je dis la gare de Perrache, Flixibus, machin, tout ça. Prenez garde que c'est un coin très sensible où facilement, même si vous n'êtes pas une personne dangereuse, quelque chose peut arriver. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé. Secondo, je demande à tout le monde d'être dans la dynamique du don de soi, du don de ses énergies positives. Le monde a besoin de ça. Moi, j'ai besoin que la jeunesse d'aujourd'hui, les enfants de Lyon soient des enfants illuminés, des enfants riches, riches dans leur âme, riches dans tout ce qu'ils font. Donc mes comptes, c'est orienté vers la richesse et tout le monde ne peut pas être compteur. Celui qui a un autre talent, de le mettre au profit de l'humanité, de tout le monde. On va tous s'enrichir et voilà, c'est ça la vie pour moi.
Merci, bonne journée à toi.
Ok, bonne journée.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi. Et on va passer au traditionnel
agenda.
Agenda, parce qu'en plus, on a une semaine extrêmement chargée qui s'annonce. Donc voilà, donc bah, écoutez, dès demain matin, on vous donne rendez-vous dès 8h du matin, parce que bah, en fait, on est début avril, et comme tous les ans, bah, la trêve hivernale est finie, et les expulsions redémarrent. Et donc, hélas, comme tous les ans, bah, le centre d'hébergement d'urgence, qu'on appelle de la caserne Chabal, va se faire expulser. Et donc, c'est, comme tous les ans, ce sont plusieurs centaines de personnes qui vont se retrouver à la rue. Donc, bah, les collectifs de soutien et évidemment les habitants vous donnent rendez-vous demain matin à partir de 8h devant la caserne. Et à partir de 14h de la même journée, et vous, bah, en fait, justement, il y a des collectifs de travailleurs sociaux sur la question notamment du logement se mettent en grève et appellent à une manifestation devant la métropole à partir de 14h.
Ah, et on passe au mercredi où vous pouvez commencer votre journée à 14h pour aller au procès de l'Amphiz qui aura lieu au tribunal d'instance de Villeurbanne. C'est important d'y aller parce que malgré toutes les fois on vous a invité à aller au procès de l'Amphiz, cette fois ça risque d'être le dernier procès où il y aura la décision finale et c'est important d'être nombreux pour soutenir les habitants de l'Amphiz. Ensuite, vous pouvez aller le soir, entre autres choses, à une conférence gesticulée qui s'appelle La Roue Tourne, dans le cadre du Festival des conférences gesticulées de Lyon, qui se déroule du 14 mars au 11 avril. Je vous laisse vous renseigner si vous voulez aller en voir d'autres.
Et jeudi, donc voilà, bah on va continuer. Et bah, la journée militante en tout cas démarre dès 14h parce que les travailleurs sont debout depuis très longtemps.
Et les militants ont rien foutu de la matinée.
Voilà. Les militants et chômeurs.
Et oui. Retraités, parce que c'est eux qui nous concernent aujourd'hui. Ce jeudi, donc oui, ce jeudi 11 avril, une manifestation interprofessionnelle, intersyndicale a été appelée pour manifester donc, contre la réforme et le statut déjà actuel des retraités, qui est évidemment catastrophique et qui, vu ce. Les dernières annonces gouvernementales n'est pas prêt de s'améliorer. Donc l'ensemble des syndicats et militants vous invite à démarrer une manifestation à partir de 14h, place de la Comédie, et manifestation qui se terminera devant la préfecture.
Mais malheureusement, ce n'est pas une grève, donc c'est compliqué pour les travailleurs d'y aller, mais c'est déjà ça.
Après, quand t'es retraité, faire grève, c'est complexe aussi.
Oui.
Mais bon, c'est
moi, je suis contre la réforme des retraites, par exemple.
Non, c'est clair.
Alors que je suis pas encore retraité, tu vois.
T'es encore du temps.
Et ouais. Oui, c'est bien toute la problématique, c'est que la retraite concerne aussi. Nous sommes tous de futurs retraités. Enfin, on vous le souhaite en tout cas. Et donc, à partir de 19h, vous pouvez aller vous former. En fait, le groupe soins continue à faire ses ateliers. Là, un atelier spécial intitulé Des meufs et des plantes, les plantes utiles en gynéco. Donc voilà, donc, c'est toujours ces ateliers en fait, d'auto-formation qui sont toujours d'aussi bonne qualité. Et c'est à partir de 19h à l'Amicale. Après, vous aurez. Rue Sébastien Griffe, au 31, si je me
trompe. Un truc dans le genre.
Le soir, vous pourrez aller voir un certain nombre de conférences gesticulées. Vous irez voir tout le programme parce que c'est un gros programme qui dure sur plusieurs semaines. Et ce qui nous amène donc à vendredi.
Vendredi à 14h, puisque c'est décidément à cette heure-ci que les journées commencent pour les militants. Grève et manifestation des jeunes pour le climat qui partira de l'hôtel de ville si vous voulez la rejoindre. Le soir, dans le cadre du printemps libertaire, vous pourrez aller à un débat quand le corps parle et que les pouvoirs s'étouffent. Mmh. C'est au local de la CNT, dont je ne connais pas l'adresse, mais vous aurez les détails sur Rébellion.
C'est rue Burdeau, dans
rue Burdeau. Voilà, donc ça c'est à 19h. Et si vous ne voulez pas participer à ce débat, vous pouvez aller à la présentation du mensuel CQFD à l'Amicale du Futur, le fameux bar 31 rue Sébastien Griffe. C'est à 19h aussi. Ou alors aller à une soirée de soutien à des gilets jaunes incarcérés qui s'appelle Feu aux prisons, dans un lieu inconnu mais à Villeurbanne. Et pour les infos, il faut écrire à une adresse mail que vous trouverez sur l'agenda de rebellion.info.
Oui, et pour info, c'est pas le bienvenu que les gens se ramènent pas, parce qu'à chaque fois qu'on écrit quelque part à Villeurbanne, des fois, il arrive que ça soit par ici, et là, pas du tout, donc évitez de vous pointer là-bas.
C'est pour pas au bienvenu, donc écrivez à l'adresse que vous trouverez sur rebellion.info.
S'il vous plaît, pour éviter de déranger des copains qui, je vous le rappelle, habitent quand
qui
même
qui n'organisent
là-bas
pas une soirée feu aux prisons.
Voilà. Donc ça nous amène à samedi où bah écoutez tout continue à démarrer à 14h, je crois que la vie militante est vraiment en décalé, et donc il y a un cours à l'Arbrel pour changer le Lyon sur la question de l'autodéfense en municipalité choisie, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour les camarades présents dans les environs. Vous aurez une journée très très chargée, donc évidemment à 14h la manifestation gilet jaune qui bah, toujours encore est toujours là et pour longtemps nous le souhaitons. Sinon dans le cadre du printemps libertaire, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez à partir de 15h une rencontre avec Jacques Lesage de la Haye sur son dernier ouvrage qui s'intitule L'abolition de la prison. Vous avez en même temps, qui est cette fois l'atelier des canulars, une rencontre et débat à propos des exportations d'armes de la France organisée par le collectif NINA. Et qui est, voilà. Donc, hein, et le soir.
L'atelier des canulars, c'est 91 rue Montesquieu.
Qui est, voilà.
Qui est quand même. Non, qui est organisé, je suis désolé, l'anonymat, j'ai totalement oublié de ce qu'il voulait dire. Mais c'est co-organisé avec l'Observatoire des armements, de toute façon, qui sont eux les la grande spécialiste de la question. Dans tous les cas, et ça, on espère vous voir très, très nombreuses et nombreux le soir à la soirée hip-hop féminin. Donc, toujours dans ce cadre de magnifique festival du printemps libertaire.
Ah, il fait bien la pub, hein.
Ah bah écoute. Ah ouais. Donc voilà, donc un super concert en fait qui va durer jusqu'au bout de la nuit et qui donc démarre dès 20h avec un open mic qui aura lieu à Radio Canu en fait dans l'après-midi. Et donc pour venir à ce super concert, on espère vraiment vous voir super nombreux et nombreuses, parce qu'en plus il y aura des croque-monsieur.
Parce que ce sera super. Si tu veux dire super encore super. Une fois, ce serait super.
Pour écrire, pour avoir l'info du lieu, les deux adresses mail au choix, les deux comme vous voulez, qui s'appellent le hip hop c'est ma pote, ou je suis en @riseup.net, ou je suis ansieux@gmail.com.
Est-ce que tu veux bien rappeler l'adresse si
Eh ben, il faut écrire cette adresse.
L'adresse est tenue secrète.
Peut-être que ça serait moins long d'aller directement recevoir ce rébellion si vous êtes intéressé pour avoir les adresses sous les yeux.
Déjà, je suis intéressé moi donc.
Vous irez, okay. Il y a des liens directs, vous cliquez dessus. Et si vous souhaitez une soirée un peu plus calme, vous pourrez toujours aller faire un tour à la MJC de Houlin, où une représentation théâtrale de la pièce Une pièce de 9 mètres carrés se joue donc à partir de 20h30 à la MJC.
Et puis on va aller jusqu'à dimanche, puisqu'il se passe un truc assez cool dimanche dans le cadre de Printemps Libertaire. fête de quartier, place Mazagran, du coup, si vous voulez manger, boire. Ce sera toute la journée de 10h à 20h. Alors on commence plutôt le dimanche, la journée militante, c'est pas normal.
C'est logique. Et donc oui, donc sur cette place Mazagran, vous pourrez rencontrer plein de collectifs militants, notamment ceux en lutte dans le quartier
Guillotière.
De la Guillotière, qui essayent de lutter contre les transformations assez délirantes que le quartier subit, en fait, l'agression extérieure de la part des entrepreneurs. Et puis plein d'autres collectifs sur plein de thématiques militantes. Il y aura aussi normalement un peu de musique, il y aura un peu à boire et il y aura beaucoup de choses à fêter.
Et puis, et lundi ou...
Eh ben, on va peut-être pas aller jusqu'à lundi, mais dernière info pour le dimanche, il y a une lecture théâtrale sur le thème de la détention qui s'appelle « Ce qui s'écrit dans les prisons ». Au bar L'Amicale du Futur, c'est à 18h, c'est à côté de la place Mazagran, donc il n'y aura pas de problème pour y aller. Et donc c'est une soirée de lecture croisée d'écrits de détenus récents, donc de 2018, et du texte de Victor Hugo et de Claude Gueux. Alors là, je ne sais pas, mais vous le découvrirez si vous y allez.
Et j'invite toujours des pères à insister, et lundi.
Et bien lundi, et bien sûr, il y a le Canu Info à 19h.
19h,
c'est comme tous les lundis, mais oui, c'est le plus important. Ça commence à 19h.
Et pour ceux que ça intéresse, parce que hélas, ça intéresse beaucoup trop de monde, il y a une permanence juridique en soutien aux sans-papiers qui a lieu comme tous les lundis à partir de 18h30 au local de la Lutine, au 91 rue Montesquieu, où des camarades, en fait, qui n'ont pas dû, pour pouvoir lutter depuis des années, accumuler beaucoup trop d'expérience, et ben maintenant, se sont formés et donc viennent transmettre leur savoir et aider les personnes qui en ont besoin.
C'est vrai qu'on l'annonce rarement parce que c'est pendant notre émission, mais ça vaut le coup.
Mais ça vaut le coup, non, vraiment, n'hésitez pas à passer les voir. Si vous avez besoin d'aide, ils feront leur possible, mais ils savent ce qu'ils font.
Voilà, et ben on a à peu près fini, on est en avance, c'est la folie.
Pas tant que ça. Et ben écoutez, on il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle semaine, un très beau festival libertaire et puis à très très bientôt.
Un très beau gilet jaune samedi.
Un très gilet jaune surtout dans tous les cas.
Voilà.
À la semaine prochaine.
Et surtout restez connectés
sur le 102.2, la plus rebelle des radios.
Bien.
Tu lâches et tu dis toc, tu refuses tout en bloc, je m'en moque. Tu dièses et tu bémoles, tu altères tout en somme, tu déconnes. Dans le jour, la nuit, tu parles de moi comme d'une robe que tu ne quittes pas. À chaque pas, tu me fuis, moi je te suis, tu disparais. Mon cœur secret se cloisonne. Mon cœur secret, plus personne. On a traversé les déserts. les glaciers de leur tour.